Oui.
Voilà, je vais donc continuer l'exposé que j'ai commencé hier sur le non-soi ou le non-moi. Venir sur quelques points et aussi essayer de rendre compréhensible cette notion parce qu'elle est tellement importante. Il y a différentes manières de l'aborder, on va le voir aujourd'hui et demain, on va voir ces différentes manières d'aborder cette question du non-soi, du non-moi. De voir sous différents angles qui tous vont montrer l'impossibilité dans notre vie, dans notre vécu, l'impossibilité de poser quelque chose de stable, immuable. On va voir de différents angles cette impossibilité pour essayer de déterminer comment alors est-ce qu'on pourrait fonctionner si on enlève ce moi immuable qui a l'air tellement essentiel pour nous, pour voir, pour entendre, pour méditer, pour participer. Donc, comment est-ce que c'est possible si on enlève cette entité qui semblerait stable, permanente, toujours là, d'une certaine manière? Lorsque dans les textes on parle des trois caractéristiques du monde, des phénomènes, de l'existence, de nous-mêmes, ces trois caractéristiques qu'on connaît bien sont l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de moi, l'inta, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de substance immuable dans aucun phénomène. Pas seulement soi-même d'ailleurs, pas seulement en ce qui concerne le moi, mais en ce qui concerne tous les phénomènes. Donc cette analyse du moi, cette exploration du moi, on pourrait l'appliquer aussi à tous les phénomènes qui sont des phénomènes du monde, donc des phénomènes impermanents. Mais le fait de questionner ou d'entrer par la porte de l'impermanence semble être une des portes les plus naturelles pour découvrir cette absence de moi immuable. Ça semble vraiment aller de soi lorsqu'on comprend bien ce que impermanence veut dire. Ça semble assez simple de comprendre qu'à ce moment-là, il n'y a pas naturellement pas de moi stable et immuable. Donc c'est évidemment ce questionnement du moi, il est fondamental, pas seulement si on fait de la méditation, mais pour toute existence, puisqu'il semble que notre existence tourne autour de ce moi-je, sans être extrêmement égocentrique, n'empêche que ça tourne toujours autour de moi, de mien, etc. Même si quelquefois je mets quelques formes pour pas que ça paraisse pas trop centré sur moi-même, néanmoins. rend bien compte que ça réfère toujours à ce que je suis moi-même. Donc, nous avons la certitude de cette existence. Moi, ça semble quelque chose de... C'est, même d'en douter, ça semble étonnant. Comment est-ce qu'on pourrait douter de ceci alors que c'est la chose la plus fondamentale? Je me souviens d'un scientifique américain qui disait, voilà, le moi, c'est vraiment le cœur de l'existence, de la conscience, parce que quand je me réveille, immédiatement, je me découvre moi, dans mon lit, moi, qui me lève. Mais voilà, c'était quand même une remarque assez naïve, parce que, voilà, on pourrait imaginer toute dérive mentale qui ferait qu'on découvre toujours les mêmes choses, ça n'en ferait pas nécessairement une existence, une certitude. Ça montre simplement la persistance de cette confusion par rapport à un moi stable. Donc quand on essaye de le cerner, on peut dire quelque chose, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, etc. Là, on pourrait dire, ben voilà, moi je suis boulanger, ou je suis institutrice, ou secrétaire, ben, on pourrait donner toute forme de profession comme si c'est ce qu'on était. Alors ça, évidemment, ça ne définit pas ce qu'on est, ça définit ce qu'on fait. Le travail qu'on a, j'espère bien que, on parle de travail ici, que si on sortait de ceci, eh bien, on arrive à plus être institutrice quand on va se promener dans la forêt, ni boulanger d'ailleurs, ni secrétaire, mais qu'à ce moment-là, on est simplement. Pour revenir à cet exemple un peu étonnant, quand un bébé naît, on ne dit pas voilà un bébé institutrice, voilà un bébé boulanger. C'est juste un être. Donc, quand on veut se définir par la profession, il y a évidemment quelque chose qui ne joue pas. On dit ce qu'on fait et on s'identifie à ce qu'on fait comme si c'était notre nature, notre essence. Comme s'il y avait une essence de. Voilà, un boulanger, il était d'essence différente que serait une secrétaire, un secrétaire ou un instituteur, une institutrice. Voilà, on peut dire ces choses-là, voilà ce que je fais. Donc, je suis instituteur, je suis institutrice. Voilà, mais ça veut juste dire ce que je fais. On peut aussi, évidemment, s'identifier à son corps, à son apparence corporelle. Je suis grand, je suis petit. Voilà, décrivant beaucoup d'aspects de son corps, mais évidemment, c'est pas vraiment l'identification à cet aspect corporel maintenant. Parce que si on imagine de manière un peu dramatique, mais voilà, je perdrais un membre, ben, le moi, il n'a pas changé. Je ne dis pas qu'il a diminué de ceci, parce que j'ai perdu une main. Je ne dis pas diminué de ceci. C'est absurde. Ou là, si je perdais les cheveux, enfin, ça s'est déjà arrivé, ben, là, je ne dis pas, tiens, tout d'un coup, mon moi, il a perdu quelque chose, parce que bon, quand j'avais 20 ans, j'avais des cheveux. Même une personne qui, à cause d'un traitement médical, pourrait perdre les cheveux, et ben, voilà, son moi n'a pas changé, il n'a pas perdu quelque chose, et puis, voilà, j'espère que ça revient par la suite et regagner quelque chose. Donc on voit bien que l'identification au corps n'a pas de base solide, puisque le corps c'est aussi quelque chose qui évolue, qui change, si je vois mon... Parce que même mon apparence physique, ben, évidemment, depuis quand j'avais 5 ans, ou 10 ans, ou même 20 ans, plus grandi depuis, évidemment, eh bien, quand même, mon apparence physique était bien différente. Je ne veux pas dire totalement, parce qu'évidemment, si je montre une photo, tu as vu, c'est moi à 5 ans, ah, c'est toi, ben, on reconnaît un petit peu, on peut toujours, bien sûr, reconnaître les traits corporels. Et vous voyez, le corps est aussi quelque chose qui change constamment. Donc, cette identification au corps est quelque chose qui, ça définit l'apparence corporelle, etc. Mais ça ne définit pas qui on est. On n'est pas distant du corps, néanmoins, on n'est pas limité, résumé par ce corps. Donc quand on essaye de dire ce qu'on est, on n'arrête pas de raconter des histoires qui finalement manquent l'essence du problème. Des professions, de l'activité, l'apparence, mais jamais on arrive à saisir ce que pourrait être un moi comme quelque chose d'essentiel en qui on pourrait avoir confiance. Et ça ne change pas. On verra dans l'invitation, ceci joue un rôle important. Manière de s'identifier, là j'ai parlé profession, j'ai parlé du corps, mais on peut aussi évidemment s'identifier aux émotions. Là, je suis triste, je suis joyeux, je suis joyeux, je suis joyeuse, comme si c'était aussi une naissance. À nouveau, on revient à un bébé triste, un bébé joyeux. J'espère bien qu'ils ne sont pas déterminés comme ceci, que les petits bébés qui changent d'ailleurs assez rapidement, de manière extraordinaire, d'émotion ou de vécu. Donc voilà, on ne peut pas dire se réduire à la tristesse, ni à de la joie, ni à du calme, quand c'est le vécu qui surgit. Donc dès qu'on essaye de dire je suis ceci, je suis cela, on se rend compte que ça manque l'objectif, ça n'est pas, lorsqu'on questionne ceci, ce n'est pas crédible. Donc il est aussi important, tout ce questionnement qu'on va faire sur le moi, on peut aussi le faire sur le toi. Et ça, je pense que ce n'est pas souvent mentionné, et c'est très important. Parce que quand on va découvrir, peut-être dans sa pratique, que dans le fond, voilà, il n'y a pas de moi aussi solide, déterminé, qu'il soit ceci ou cela, calme, tranquille, ou intelligent ou stupide par moment. Donc lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'entité qu'on peut cerner dans le rapport à autrui, c'est aussi important, parce que l'autre non plus n'est pas réductible à quelque chose, même si voilà, on dit c'est un emmerdant, une emmerdante, voilà, on a l'impression que voilà, on a clos le débat, on a fait le tour de la question, mais en fait, personne n'est réductible à un trait de caractère présentement. Donc à ce moment-là, ce qui me semble fascinant que j'explore des fois, avec plus ou moins de succès, c'est lorsque j'ai un différend avec une personne, même pas une personne qui est là en face de moi. J'imagine quelquefois il y a des gens qui s'expriment au sujet du bouddhisme, et j'ai l'impression quand même qu'ils disent des choses qui ne me conviennent pas, qui ne me semblent pas du tout en accord avec le Bouddha, donc une sorte d'argument intérieur, comme si cette personne, elle était ceci et cela, mais quand je me rends compte aussi que, comme moi, elle n'est pas réductible à quelque chose, c'est aussi un processus qui n'a pas de moi-je en substance. Je me rends compte qu'à ce moment-là, immédiatement, il y a une ouverture. Voilà, c'est ce que cette personne dit en cet instant, etc. Et ce que moi je peux dire en cet instant. Donc voilà, je ne sais pas si je vais y revenir beaucoup, mais on peut aussi questionner la manière dont on voit les autres, parce qu'on peut aussi les réduire dans des sortes d'entités, comme si c'était leur essence d'être ceci ou cela, que ce soit en positif ou négatif. Et ceci, c'est aussi un enfermement. Donc en ce qui nous concerne, en ce qui concerne les autres. Donc, l'exploration qu'on va continuer aujourd'hui, donc comme je l'ai dit hier, on base beaucoup sur un texte du 9e Karmapa, qui est un commentaire du bouddhisme indien de Chandrakirti, donc vraiment une sorte de référence dans la tradition du bouddhisme indien, qui fait un commentaire sur le chapitre qui parle justement de l'absence de soi, etc. C'est un des chapitres les plus souvent étudiés pour essayer d'aborder ce problème. Donc aussi, comme je l'ai dit, mon maître Geshe Rabdon, parce que c'est là que j'avais commencé, qui est aussi quelqu'un d'extrêmement clair, donc ça m'a beaucoup aidé. On a un peu les sources, et puis sur des sutras anciens que nous allons voir, et puis en continuant, on peut faire des parallèles avec la pensée occidentale, parce que ça me semble important. En lisant ce commentaire du 9e Karmapa, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais entendu il y a bien longtemps, mais je n'avais plus les sources, donc ça manquait dans mon esprit de précision. Et il dit quelque chose qui, on va le voir pendant ce week-end, me semble quand même extrêmement important, c'est qu'il fait une différence, une nuance dans deux niveaux de conception de la notion du moi, dans deux niveaux d'attachement à la notion du moi. Il y a deux types différents. Il parle d'une manière innée. Alors, il y a une manière innée de se saisir en tant que moi-je, et puis il y a une manière construite, imaginaire. Donc, manière innée, manière imaginaire. Et on verra comme dans le cheminement spirituel, elles sont abandonnées, elles sont réglées à différents moments. D'abord, ce sera ce moi imaginaire dont on va déterminer le manque de solidité, qu'on va décrédibiliser. Et puis, dans un autre temps, plus loin dans la pratique, à ce moment-là, c'est cette notion de moi inné qui pourrait être dépassée. Alors, moi imaginé, construit, et moi inné. Moi inné est plus fondamental, donc on pourrait dire, ben voilà, c'est là qu'il faudrait porter notre méditation, mais on verra que dans la vie quotidienne, dans le fond, ce qui nous contraint peut-être le plus, c'est justement ce moi imaginaire, ce moi construit. On va voir ce dont il s'agit dans ce cas-là. Nous avons vu hier dans l'histoire de ce marchand qui essaie de récupérer une dette, comment il y a un danger lorsque on analyse sous la forme de cette impermanence, du fait que les choses changent d'instant en instant, où on ne trouve plus de sujet constant qui pourrait être responsable de ces actes. Évidemment, c'est problématique, pas seulement pour ce pauvre marchand qui va perdre l'argent qu'il avait prêté, mais évidemment, si on veut garder une certaine dimension morale, éthique, un cheminement spirituel, tel qu'il est exprimé dans la loi du karma, par exemple, eh bien, il faut bien trouver quelque chose qui soit responsable. Autrement, on pourrait dire, eh bien, c'est une personne qui accumule un karma, pour utiliser ce langage un peu simple, et c'est une autre personne qui en ferait l'expérience, et ça ne joue pas. Donc, il va bien falloir quand même rendre compte, trouver des solutions pour qu'il y ait une certaine continuité. Alors, d'après, il y a des petites nuances dans les différentes explications, dans les différents textes, et bien, voilà, ce que certains disent, et ici le 9e Karmapa, dans le fond, pas uniquement, il dit bien, ce moi inné, on verra qu'il est plus fondamental, plus général aussi, eh bien, c'est celui, il ne s'agit pas d'en nier l'existence complètement, parce que c'est lui qui permet justement cette responsabilité, cette unité, ce moi inné. Quant au moi, alors, imaginaire, ce moi de fiction, lui, il n'existe pas du tout. Donc lui, on pourra l'éliminer sans problème. L'autre, eh bien, il faudra quand même lui garder un certain degré de réalité, même si c'est une réalité, on verra, d'usage dans le fond, parce que sinon alors on perd complètement le sens de la responsabilité, il n'y a plus de moralité et autre, et puis on tombe dans une sorte d'incohérence. Et bien rendre compte aussi du fait que nous avons l'impression d'être la même personne, ça c'est important. Si on se base sur l'anecdote que racontait Pichard, on pourrait dire, mais c'est quand même, comment est-ce qu'on peut se rappeler du moi qu'on était hier si ça change d'instant en instant? Donc, il faut un support, et ce support, eh bien, pour voilà, certains commentaires, eh bien, c'est ce moi inné, alors que l'autre, le moi imaginaire, le moi fictionnel, on verra, lui, il n'a aucune base. Il n'a aucune base et aucune utilité, si ce n'est au contraire d'amener de la confusion et des difficultés. Donc on sent là dans ces deux niveaux de moi, donc un certain besoin, une certaine nécessité de rendre compte de l'usage commun. On ne peut pas simplement le balayer parce qu'on se rend compte que les conséquences, évidemment, seraient difficiles. On trouve ceci dans un sutra plus ancien, l'Ananda Sutra. Et là, des ascètes viennent interroger un moine, qui s'appelle Anujada, et il lui pose une question, il dit, est-ce que le Bouddha, est-ce qu'il existera après sa mort? Il dit, non, on ne peut pas dire ça. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il n'existera plus après la mort? Il dit, on ne peut pas dire ça. Alors, il demande, est-ce qu'il existera et n'existera pas ni existera ni n'existera pas, pour essayer d'envisager toutes les possibilités. Et le moine, Anujada, dit « Non, on ne peut pas dire ça, laissant supposer qu'il faudrait le définir d'une autre manière. » Ce n'est pas comme ça qu'on doit le définir. On pourrait dire « Ce n'est pas comme ça qu'on doit le définir. » Et ces vagabonds, ces personnages voilà, itinérants en Inde, ils sont fâchés, ils le traitent d'incapable. Et ils sont... Le moine Anujada se dit « Est-ce que j'ai bien répondu à leur question ?» Et qu'il soit fâché, ça ne veut pas dire qu'il a mal répondu, mais il se pose quand même la question, est-ce que j'ai bien répondu à cette question? Alors à ce moment-là, voir que Anuradha va aller poser cette question au Bouddha. Est-ce que c'est comme ceci qu'il faut le... Est-ce que c'est comme ceci qu'il faut le décrire? Donc on a là, on peut ni dire qu'il existe, ni qu'il n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir plus loin en essayant d'aller un petit peu plus profondément dans ceci. Il y a un autre sutra où voilà, un vagabond s'approche du Bouddha et lui dit, voilà, il pose cette question au Bouddha, il l'appelle Maître Gautama, est-ce qu'il y a un moi? Et le Bouddha reste silencieux. Alors il dit, est-ce qu'il n'y a pas de moi? Le Bouddha reste silencieux. Alors, le vagabond s'en va, mais il ne peut pas en tirer grand-chose de lui. De cet être éveillé, on ne tire pas grand-chose. Et Ananda, donc le fidèle servant du Bouddha, il lui dit, mais au fond, pourquoi vous n'avez pas répondu? Pourquoi est-ce que vous êtes resté dans le silence? Il n'a pas répondu à cette question, savoir que le moi existe ou que le moi n'existe pas. Et le Bouddha explique, il dit bien, si j'avais dit que le moi n'existe pas, ce vagabond aurait cru qu'avant il avait un moi, et que tout d'un coup il a disparu, il a perdu quelque chose qui existait avant. Il aurait été dans une confusion encore plus grande, croyant qu'il avait perdu quelque chose. Si j'avais dit que le moi existe, à ce moment-là, il se serait attaché au moi en ce moment le Brahman, c'est-à-dire un moi permanent, immuable, quelque chose de qui est un absolu, qui est une totalité, qui est ce qu'enseignent les Brahmanes. Donc, il aurait aussi été dans l'erreur. Quand il aurait entendu que le moi n'existe pas, il aurait pris un certain aspect de son expérience pour dire ça n'existe pas, c'est vécu et autres, ce qui l'aurait mis dans une confusion. Et s'il avait dit le moi existe, alors il aurait fait quelque chose, si on veut, à ce moment-là, c'est ce moi imaginaire dans lequel il serait perdu en imaginant ce moi totalité, immuable, absolu. Donc, le Bouddha s'est abstenu de répondre d'une certaine manière parce qu'on ne peut pas juste répondre il existe ou il n'existe pas. Et ça, c'est assez important quand on enseigne, quand on parle du dharma, de se rendre compte qu'on ne peut pas toujours juste donner des réponses simples parce que c'est des réponses simples à des questions profondes, eh bien, elles amènent plus de confusion que... S'abstenir, évidemment, quand les gens nous posent des questions, si on reste en silence, ça preuve pas mal d'orgueil, donc on peut essayer d'expliquer, mais en tout cas, des réponses toutes simples, il faudrait voir ce que la personne ne pense pas, est-ce qu'il y a un moi, est-ce qu'il n'y a pas de moi, essayer d'aborder le contexte. Mais dans les deux cas du moi, donc conception du moi qui est innée et celle qui est imaginaire, fictionnelle, dans ces deux notions, il y a un élément qui est similaire, qui est la stabilité, l'immuabilité de ce moi. Ce moi, c'est quelque chose qui ne change pas, qui est là depuis un peu après ma naissance, il est là et disparaîtra sûrement à ma mort, mais il y a quelque chose de permanent, de stable. Et là, les deux conceptions du moi ont ceci en commun, qu'on veut s'attacher à quelque chose qui ne change pas, d'immuable. Donc le même élément qui perdure dans le temps, ça c'est une des caractéristiques de ces deux confusion par rapport à moi, au moins. Et ceci, évidemment, si on le relie à la notion d'impermanence, qui est un élément fondamental de la vision du monde enseignée par le Bouddha, que tout change d'instant en instant, c'est pas impermanence où les choses, elles existeraient pendant tant d'années, et puis tout d'un coup, elles cessent, ou comme une tasse en porcelaine, elle est là, parfaite, et puis tout d'un coup, voilà, tant d'années, elle se casse. Non, c'est que les choses changent d'instant en instant, extrêmement rapidement. Donc c'est une notion qui est plus proche de, on pourrait dire de la science moderne avec les molécules, les atomes, tout change d'instant en instant. Mais là, on ne se base pas tellement sur une sorte de vérité extérieure, mais du monde dans lequel on vit, et du monde dont nous faisons partie, nous-mêmes. Donc nous changeons d'instant en instant, notamment les cellules du corps, et puis la conscience, etc. Donc... Nous sommes aussi complètement impermanents. Rien n'est stable dans le monde, dans l'univers, pour la tradition bouddhique. Et ça, c'est une notion importante, puisque le Bouddha, à sa mort, les derniers mots qu'il a dit, on peut imaginer qu'il voulait encore parler alors qu'il était sur le point de mourir, qu'il avait déjà dit pas mal de choses. 40 ans d'enseignement, il avait le temps de s'exprimer. Eh bien, il dit « Tous les composés sont éphémères, œuvrez à votre propre liberté. » Donc, tous les composés sont éphémères, œuvrez à votre propre liberté. Donc, rien n'est stable. Éphémère, tout change et tout disparaît, surgit et disparaît. Voilà ce qu'il, le conseil qu'il donne juste avant de mourir. Œuvrez à votre propre liberté. Donc, la manière d'œuvrer à sa propre liberté, c'est de réaliser ceci, que tout change. Non pas comme un défaut. Cette impermanence, ce n'est pas un défaut du monde, le fait que nous sommes impermanents, c'est pas un défaut du monde, au contraire, c'est justement le signe de la liberté. Et ça, c'est pas évident, et je crois que c'est quand même une des caractéristiques de l'enseignement du Bouddha que d'avoir compris ceci, de l'avoir réalisé clairement, que le fait que tout change d'instant en instant, ce n'est pas un manque dans l'univers, c'est au contraire, justement, la marque de notre liberté. Donc cette impermanence joue un rôle important, par exemple, dans la vie de grands disciples du Bouddha, donc Sariputra et Moggallana, voilà qu'ils ont. Ils ont cherché des maîtres spirituels, finalement ils ont trouvé un grand maître qui enseignait les jhanas, ils ont étudié les jhanas, donc les concentrations extrêmement profondes avec ce maître, et quand ils sont arrivés au bout de leur cheminement, sur les jhanas, eh bien, ils ont dû mettre alors la suite, parce qu'ils se rendaient compte que pour eux, ce n'était pas terminé. Que le fait d'arriver dans des états de concentration les plus subtils qu'on peut imaginer, ce n'était pas la fin de l'histoire. On restait quand même conditionné, enfermé dans quelque chose. Même si cet enfermement n'avait pas vraiment de forme ou de limite, c'était quand même un enfermement. Donc, ils sont rentrés chez eux, ils habitaient la région de Rajgir, sud de Patna, à l'est de Benares, sont entrés chez eux en se promettant que s'ils en trouvaient une solution, il fallait tout de suite qu'il aille à l'autre pour lui dire ce qu'il avait découvert. Voilà, bons amis. Et un jour que Sariputra était au marché, au bazar de Rajgir, il voit un moine qui marche très tranquillement, complètement apaisé, dire voilà, là j'ai découvert quelque chose. Ce moine-là, ce personnage-là, a l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Et en discutant avec lui, qu'est-ce que va réaliser Sariputra ? Il va réaliser que tout ce qui est de nature à apparaître est de nature à disparaître. Tout ce qui est de nature à apparaître est de nature à disparaître. Voilà comment les textes le mentionnent de manière constante. Tout ce qui apparaît disparaît. C'est évidemment une réalisation profonde de l'impermanence. On dit qu'il a atteint le premier niveau de l'éveil en réalisant ceci. Évidemment, il va voir Moggallana, lui raconte l'histoire, lui raconte sa rencontre avec le moine, et puis Moggallana aussi comprend ceci, il comprend que tout ce qui est de nature à apparaître est de nature à disparaître, et il atteint le premier niveau de l'éveil. Donc, on voit bien l'importance de l'impermanence pour ouvrir sur autre chose. Et rares sont Rares sont les philosophies, les religions qui assument l'impermanence comme le bouddhisme le fait. En général, toutes les philosophies, les religions veulent s'attacher à quelque chose de permanent, de stable. Le place un peu différemment, mais c'est quand même une sorte d'absolu qui, lui, ne change pas. Alors, pour citer les Upanishads, Plotin le grand philosophe grec qui a eu tellement d'influence sur la mystique chrétienne, l'orphisme, Pythagore, Platon, pour eux seuls, l'un existe. Il est immuable, il est absolu. C'est seulement ça, ça existe. Tout le reste, éphémère, etc., ça n'existe pas vraiment. Si on veut se référer à quelque chose qui existe vraiment, c'est cet un immuable, le reste, ça n'existe pas vraiment. Alors que le bouddhisme dit l'inverse. Il dit, voilà, ces choses immuables, stables qu'on veut trouver, ça c'est de la fiction, c'est de l'imagination, ce qui existe vraiment, si on va mettre entre parenthèses, ce qui existe vraiment, c'est le fait que tout change d'un instant en instant. C'est ce monde en constant flux. Ça existe, ça c'est la réalité. Le fait de vouloir trouver quelque chose d'immuable derrière ce flou, ça c'est de l'imagination, ça c'est de la création. Mais rares sont les philosophes ou les religions qui ont pu assumer avec autant de rigueur ce monde changeant dans lequel nous nous trouvons. Pas l'assumer comme une sorte de fardeau, de poids, de manque, mais au contraire, de découvrir que c'est exactement ça, la marque de la liberté. Il n'y a pas tous les philosophes, on pourrait dire qu'il y en a peut-être deux qui, en Occident, ont assumé cet aspect changeant du monde. C'est Héraclite, et bien plus tard, donc Nietzsche, qui, pour lui, de placer quelque chose de permanent derrière un monde en changement, c'est une illusion, et c'est une illusion extrêmement, extrêmement coûteuse. Donc c'est cette exploration d'avoir aussi qui nous fait découvrir ce qu'il y a de fictionnel dans la notion du moi qui lui perturbe, ce refus dans le fond de cet éphémère. Donc constamment, les êtres humains ont refusé d'accepter ce côté éphémère du monde dans lequel nous vivons et ce côté éphémère de soi-même. Il y a un refus qu'on retrouve dans, expliqué de diverses manières, mais qui est une constante, sauf quelques exceptions, les exceptions que j'ai mentionnées, et puis j'espère qu'il y en a quand même bien d'autres que je ne connais pas. Donc, par le refus de ce côté éphémère, comment est-ce que nous le mettons en jeu, dans le fond ? Comment est-ce que nous voilons ce côté éphémère pour avoir affaire à un monde stable ? Si c'était aussi évident, regardant le monde, que tout change d'instant en instant, alors à ce moment-là, eh bien, on pourrait dire que c'est une évidence, et puis si ce n'est pas une évidence, on le voit stable, etc., les choses, la salle dans laquelle je me trouve, elle n'a pas changé depuis que je suis arrivé, peu la lumière parce que le soleil a bougé, bon, ça n'a pas vraiment changé. Donc, comment est-ce que nous voilons ce côté éphémère ? Comment est-ce que, dans le fond, nous retirons de ce monde éphémère pour nous trouver dans quelque chose de rassurant, parce que c'est ça. Donc, nous substituons, on verra là que la pensée occidentale est aussi très précise à ce niveau-là, surtout sur les poètes, les écrivains, c'est que nous substituons au monde éphémère qui change d'instant en instant, nous substituons des représentations, des concepts qui eux sont stables. On remplace dans le fond ce monde éphémère par un monde de concepts, de mots, par le langage qui lui est stable. Et à ce moment-là, on a quelque chose de rassurant parce que c'est stable, mais on n'est plus dans la réalité de ce monde concret, ce monde de chair qui change d'instant en instant. Prendre un exemple, le mot rose. Le mot rose, il ne change pas. Si j'ai dit rose, j'ai déjà cité cet exemple il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Si maintenant, je peux reciter maintenant rose, ça ne change pas. C'est stable, Ce mot rose, il ne va pas tout d'un coup se faner. Ah mince, j'ai utilisé, t'as vu le mot rose que j'ai utilisé hier? Oh, il est tout fané, j'aurais dû mettre de l'eau. Ça n'a aucun sens. Donc le concept, lui, c'est justement quelque chose de stable qui vient se substituer ici. Si j'avais la perception de cette fleur-là face à moi et que j'ai cette sensibilité, eh bien, sans m'attacher à ce concept, je verrais que cette notion de stabilité n'a pas lieu d'être en restant juste dans l'expérience, sans nécessairement dire ça change d'instant en instant, mais je n'aurais pas de notion de stabilité. Je ne remplacerai pas ce face-à-face avec cette fleur, je ne le remplacerai pas par un concept où j'aurais face à moi non plus un phénomène vivant, où j'aurais face à moi simplement une sorte de représentation. Et si je regarde cette fleur, peut-être qui ondule sous le vent et qui tourne un peu, on peut imaginer qu'il y a un éclairage particulier. Donc, selon le vent, il y a certaines parties qui sont plus claires, d'autres plus foncées. Tout ceci, ça change sous le vent, etc. Eh bien, rose, c'est plat, ça ne change pas. Il y a quelque chose vraiment de sans vie. Tous les concepts sont comme ça. Fleur, vous voyez, fleur. On peut arroser fleurs, fleurs, on ne sait même pas de quelle couleur c'est, c'est pas la taille que ça a, ça ne veut rien dire. Donc il y a ce mouvement extrêmement important qui fait que nous nous retranchons derrière un monde de représentation, de concept, qui est un moyen de ne pas assumer le monde éphémère dans lequel nous vivons. C'est tout le monde du langage. Le langage est extrêmement utile, évidemment. Mais tout d'un coup, on le prend pour la réalité. On prend le mot rose pour une fleur. Le mot rose, ce n'est pas une fleur, c'est juste rose. Je voudrais citer un poète contemporain, il est mort il n'y a pas très longtemps, Yves Bonnefoy. Voilà ce qu'il dit. Il a aussi exploré cet aspect-là. Il était assez fasciné par le. En tant que poète, par ce que fait le langage et aussi par ce qu'il peut essayer de cacher. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit parce qu'on meurt dans ce monde, parce qu'on meurt dans ce monde, et pour nier le destin, l'homme a bâti de concepts cette demeure logique. Pour nier le destin changeant, l'homme a bâti de concepts cette demeure logique. Il a fait une demeure cohérente avec des concepts. Où les seuls principes qui valent sont de permanence et d'identité. Le monde qui était construit. Cette identité, on ne peut pas dire que la rose est identique à ce moment-là, à celui d'après, parce que là on a fait des abstractions, elle est juste unique dans l'expérience qu'on a. Donc parce qu'on meurt, pour nier le destin, l'homme a bâti de concepts, une demeure stable. Où les seuls principes qui valent sont de permanence et d'identité. Parce qu'on meurt dans ce monde. Je voudrais revenir un petit peu sur quelque chose. Je voudrais citer Maître Eckhart, le grand mystique et théologien chrétien, penseur extraordinaire, qui dit « La créature est pur néant. La créature est pur néant. Seul Dieu existe. » Qu'est-ce qu'il dit là? Eh bien, il dit tout ce qui change, la créature, c'est tout sauf Dieu, c'est pur néant. Donc, il nie l'existence de ceci, ce n'est rien. Seul Dieu existe. L'absolu, là, bon, on ne va pas simplifier parce que la pensée de Maître Eckhart est extrêmement profonde. Mais là, on a bien ce rapport où, tout d'un coup, on place un absolu, ici, qu'on appelle Dieu, et qui est une manière de nier, dans le fond, le monde éphémère. La créature. Et puis on est. On voit cette tendance. Maintenant, pour revenir à un penseur que j'aime beaucoup, Maurice Blanchot, voilà ce qu'il dit aussi. Mais bien dans le cœur du problème, comment les représentations, les concepts sont une manière de se couper de la vie, qui pulse. Il dit, jadis les dieux, nous ont aidés à ne pas appartenir à la terre où tout disparaît. Les notions de Dieu nous ont aidés à ne pas appartenir à la terre où tout disparaît. C'est clair. le regard fixé sur l'impérissable et le supraterrestre, à organiser cependant cette terre en demeure. Aujourd'hui, nous nous détournons toujours plus de la présence passagère pour nous affirmer dans un univers construit à la mesure de notre savoir. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, bon, jadis c'était les dieux ou dieux qui nous ont enseigné à nous tourner vers, appartenir, au lieu d'appartenir à la terre où tout disparaît, cette terre éphémère où tout change. Voilà, ils nous ont enseigné à développer un regard fixé sur l'impérissable et le supraterrestre, le paradis, l'au-delà, etc. Voilà une manière de se détourner de cette existence dans laquelle nous nous trouvons. Et ce que veut dire Blanchot ici, dans la mesure où je le comprends, probablement d'autres choses, c'est que, dans le fond, on a, si c'est plus tellement les dieux qui nous donnent quelque chose de stable, pour beaucoup d'entre nous, pas pour tout le monde, eh bien, ce qui va nous donner une sorte de carte stable, les choses ne changent pas, c'est la science. La science va nous faire des lois qui sont des concepts, on va créer un monde conceptuel extrêmement sophistiqué, qui explique bien les choses, qui les fait fonctionner. Mais le monde de la science, c'est pas le monde dans lequel on vit. Le monde de la science, c'est celui qui tente d'expliquer le monde dans lequel on vit. Venir à un exemple célèbre, pas confondre la carte et le territoire. La science, c'est le territoire, c'est d'expliquer, mais la science, pardon, c'est la carte, puis le territoire, c'est là où on vit. Donc la science, elle reste à ce niveau descriptif, et puis le territoire, c'est la vie éphémère dans laquelle on vit. Donc tout ce jeu de langage essaye, dans le fond, de... Et aussi la science, parce que la science aime bien donner des représentations, hein, est une manière de ne pas être en lien avec le monde éphémère. Le côté scientifique, c'est pas du tout ceci, mais imagine quand même si un scientifique parlait des niveaux atomiques et autres, eh bien, peut-être qu'il va quand même vivre dans un monde où ces concepts scientifiques vont venir assembler quelque chose de stable. Pas tous, parce que j'ai l'impression que certains ont été un peu déboussolés par leur découverte. Ils se rendent compte que, tiens, ça voulait dire quelque chose d'important pour leur vie. Ouais, vous donner un exemple, on respire un petit peu après toutes ces choses compliquées, un exemple de la manière, dans le fond, où le langage se substitue, il voile quelque chose. Ouais. Un exemple célèbre où en 1962, le gouvernement britannique a vendu le pont de Londres aux enchères. Il est acheté par un Américain, $2 500 000. Alors, il a démantelé le pont de Londres, transporté aux États-Unis, en Arizona, et puis il a reconstruit le pont en Arizona, et puis le maire de Londres est venu pour consacrer le pont de Londres en Arizona. Et la radio locale, eh bien, c'est dit, périodiquement, elle continue à dire aux gens, aux touristes potentiels, venez visiter le pont de Londres. C'est un peu bizarre. Moi, je suis allé en Arizona, bah, j'ai vu le pont de Londres. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est que le pont de Londres? Bah, le pont de Londres, c'est, j'imagine, des pierres assemblées d'une certaine manière. J'imagine tous les matériaux nécessaires pour faire ce pont de Londres, quand même assez immense. Mais c'est pas que. C'est pas que, parce que cet tas de pierres, même si tous les matériaux étaient là avant la construction du pont, c'était pas le pont de Londres, c'était des pierres qui allaient servir pour construire un pont. Donc le pont de Londres, c'est un mot qu'on met, un mot qu'on met sur une certaine construction. Et aussi en dépendance, non seulement de l'objet lui-même, mais en dépendance du concept et du contexte. Pourquoi? Parce que le pont, il est là, il est construit à Londres, voilà, à une certaine période, un des premiers ponts, je ne sais pas, et à ce moment-là, on peut appeler pont de Londres. Mais d'appeler pont de Londres quand il est en Arizona, vous voyez, le mot, on a gardé le mot, voilà, c'est intéressant du point de vue touristique, Mais d'une certaine manière, c'est pas le pont de Londres. Il ne faut pas imaginer le pont de Londres dans l'Arizona. Donc ce langage, le terme qu'on a utilisé et que voilà, le maire de la ville en Arizona utilise comme moyen d'attirer les touristes, c'est donner une sorte de stabilité, et que ça perdure dans le fond, en s'attachant aux mots, en donnant une réalité aux mots, alors que c'est simplement une construction, un édifice qui change d'instant en instant. Donc on arrive à des sortes d'aberrations si on confond le langage avec peut-être ce qu'il essaye, ce vers quoi il essaye de diriger. Une citation de Nietzsche, toujours dans ces aspects-là, le concept voit l'impermanence, et ça, c'est quelque chose de tellement important dans le bouddhisme. On verra dans toutes les traditions bouddhiques, du bouddhisme ancien, du bouddhisme indien, du grand véhicule, c'est un des éléments fondamentaux que le concept, les représentations voient le monde dans lequel nous vivons. Voilà ce que nous dit Nietzsche. Il dit l'importance du langage dans le développement de la civilisation réside en ce que l'homme y a situé, à côté de l'autre, un monde à lui. Donc l'homme a fait, la femme, l'être humain, a construit un monde en parallèle, qui est un monde de représentation, de langage, qui est à côté du monde réel. Voilà, il a créé ce monde de langage à côté du monde réel. Et il le prend pour la réalité. Tout d'un coup, il crée ce monde, un peu comme si on avait fait un décor de théâtre, et tout d'un coup, on prenait ce décor pour être la réalité. Parce que justement, c'est parce que c'est stable, parce que ça ne bouge pas. Voilà l'intérêt. Nietzsche continue, il dit que ces deux mondes, l'un n'est pas réductible à l'autre. On ne peut pas réduire le monde du concept, etc., pour tout d'un coup qu'il devienne ce monde de chair dans lequel nous vivons. Il reste un monde abstrait. Tout ceci, c'est évidemment aussi le monde de la science qui veut expliquer, comme je vous dis, qui substitue une carte au territoire du vécu. Donc le fait de ne pas substituer à la vie elle-même des représentations, des théories, des notions, on retrouve ça dans les sutras les plus anciens. Et ici, j'ai quelques citations du Sutta Nipata, dont on pense que c'est peut-être un des sutras les plus anciens, la forme du langage, etc. Voilà ce que le Sutta Nipata nous dit. Rien n'est accepté ou rejeté par le sage disciple. Ici même, il s'est libéré de tous les points de vue sur le monde. Aucun point de vue sur le monde. C'est libéré de tout ceci. Rien n'est accepté ou rejeté. Il ne tombe pas, on pourrait dire, si on revient au Bouddha précédemment, il ne tombe pas dans le moi existe ou n'existe pas, parce que là, on se perd dans du langage. Je donne une autre citation du même Sutta Nipata. Le sage d'ici ne formule même pas une notion subtile à propos de ce qui est vu, entendu ou ressenti. Ces vécus, il leur substitue pas des notions même subtiles. Comment dans le monde pourrait-on qualifier cette noble personne qui ne s'accroche à aucun point de vue? Donc là, on a l'impression qu'on a une grande affinité, ou dans les sutras les plus anciens, le Bouddha s'est bien rendu compte du fait que lorsqu'on substitue des notions par rapport au vécu, on quitte la richesse du vécu dans ce monde concret pour être dans un monde abstrait, et ceci nous enferme, parce que ce monde de stabilité, c'est un monde dans lequel on s'enferme. Je vous donne une citation de Blanchot, qui est propre à Jean-Jacques Excitation, mais ça me semble tellement parlant quand on voit qu'on est un peu dans les mêmes réflexions. Voilà ce qu'il nous dit. Inlassablement, nous édifions le monde afin que ce qui est soit oublié au profit de cette cohérence de notions et de formes claires, définies, ouvrage de l'homme tranquille, où le néant ne saurait s'infiltrer, où de beaux noms suffisent à nous rendre heureux. Voilà, on est satisfait dans notre monde de représentation, où le néant, justement ce qui est ici, c'est ce qui est insaisissable, ne saurait s'infiltrer. On colmate tous les endroits où l'impermanence pourrait surgir par des concepts, par des notions. Voilà, je crois que je vais finir juste par encore un élément parce que c'était déjà assez dense et vous laissez un petit peu discuter entre vous, mais c'est aussi un point tellement important. Et peut-être juste le mentionner ici, on y reviendra, ou peut-être dans vos questions, ou peut-être que j'y reviendrai, c'est que bon, le Bouddha. Constamment, il revient sur cette manière qu'on a de résumer son enseignement, qu'il ne s'intéresse qu'à la souffrance et à la fin de la souffrance. Bon, voilà ce qui l'intéresse. Ce n'est pas tellement la science ou la philosophie, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Et la souffrance, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Donc la cessation, il dit la cessation de la mort, ici et maintenant. C'est très perturbant, c'est très bizarre de parler de la cessation de la mort ici et maintenant. Mais si on réfléchit un petit peu dans ce monde éphémère où tout change d'instant en instant, et rien ne perdure d'un instant à l'autre, à ce moment-là, la disparition de quelque chose n'est pas étonnante. Il n'y a même pas l'idée que quelque chose pourrait ne pas disparaître. Donc dès qu'on crée un moi-je qui est stable, qui existe dans la durée, cette fiction d'un moi stable qui existe dans la durée, alors la peur de la mort peut surgir parce que cette chose qui existe dans la durée peut disparaître, peut avoir une fin. Mais dans ce flot des expériences qui surgissent et qui disparaissent, ça n'a aucun sens de vouloir ou de craindre la disparition de quelque chose puisqu'on est dans un monde de la disparition. Donc la peur de la mort vient justement du fait qu'on crée une entité stable et que tout d'un coup on a peur qu'elle disparaisse. Donc quand le Bouddha enseigne la cessation de la souffrance, c'est-à-dire de la mort ici et maintenant, eh bien ce qu'il veut dire c'est que si on arrive à réaliser cette impermanence, on se rend compte à ce moment-là que la mort n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas d'entité stable, durable, dont on pourrait craindre la fin. Voilà. Donc ça, c'est un sujet aussi important, mais on voit bien la notion de moi stable qui mène à une sorte d'angoisse de perdre ce moi stable qui, pour commencer, n'a aucune réalité. Voilà, donc je reviendrai peut-être sur un ou deux de ces éléments, parce que c'était assez dense. Moi, ce que je vous propose, je vais essayer de vous répartir en groupe, et puis que vous parliez, vous partagiez un petit peu, vous questionnez, c'est important de parler de ces choses-là, pour essayer de comprendre un petit peu mieux. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'arriver à des conclusions, qu'il s'agit de dire, ah ben voilà, c'est comme ça ou comme ça. Mais le simple fait de parler de sujet, de poser une question à ces amis-là, ou bien d'entendre des questions, puis quand on pose une question, quelquefois on dit « Ah, mais tiens, dans le fond, on va la poser comme ça, elle est plus claire, cette question, ce doute est plus clair. » C'est la discussion qui amène à approfondir le problème. Quand j'étais à Dharamsala et que je débattais avec les moines, eh bien, nous étions par groupe de quatre d'ailleurs, c'était surtout de discuter des problèmes, de les voir de tous les points de vue, où tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'éclaire. Donc voilà, on va bien que vous discutiez un petit peu. On vous propose, enfin, je vais essayer de vous répartir en petits groupes, peut-être de 4 personnes, et puis on se retrouvera pour des questions-réponses à midi moins 15. Donc voilà. Ce que je vous propose, je vais vous répartir en petits groupes, discuter entre vous ou les gens qui sont dans un lieu comme le centre médical, peut-être former des